commencer l'apéro, il est 8h. Et elle boit les news, elle boit QCX. C'est Léa Journaux qui nous présente le flash. Adieu Léa.
Bonjour Loïc, bonjour à tous. Approuvé hier par la constituante valaisanne par 117 voix contre 3 et une abstention, le rapport de la première commission thématique chargée de redessiner la constitution cantonale a clairement mis en lumière les deux blocs qui s'opposent, les progressistes ou ceux qui se définissent comme tels d'un côté et les conservateurs de l'autre, avec dans le rôle d'arbitre le groupe VLR pour Valeurs Libérales Radicales. Or, le bloc dit progressiste accuse précisément le VLR de ne pas jouer son rôle de pivot et de ne pas prendre ainsi ses responsabilités. Un argument que réfute le libéral radical saviezan Pierre-Alain Rémy.
Mais je pense qu'on les prend, mais on les prend aussi à titre individuel, puisque la liberté, je dirais, fait partie de l'ADN du VLR, donc du VLR. Après, ben, il y a des sensibilités différentes au sein du même groupe. On n'est pas aligné couvert. Et puis, je pense que c'est ce qui fait le charme, en tout cas pour moi, de me sentir libre, de pouvoir voter en mon âme et conscience.
Pierre-Alain Rémy est interrogé par Yves Terrani. Précisons encore que les constituants ont attaqué hier l'examen du rapport de la commission numéro 2. Ce dernier traite des droits fondamentaux et sociaux ainsi que de la société civile. Notre parti va enfin retrouver son siège au sein du gouvernement vaudois. C'est par ces mots que Michaël Buffat a remercié ses collègues de parti hier soir. La section vaudoise de l'UDC a en effet validé par acclamation la candidature pour le Conseil d'État de l'actuel conseiller national à l'occasion des élections cantonales de mars 2022. Une élection cruciale alors que deux conseillers d'État PLR, Pascal Broulis et Philippe Lebas, ont décidé de ne pas se représenter. L'enjeu est ainsi de faire changer la majorité au sein de l'exécutif actuellement à gauche. Le bois permet encore des avancées technologiques. C'est ce que les organisateurs des rencontres romandes du bois Lignum Vaud ont cherché à prouver. La biennale a démarré hier et aura lieu jusqu'à demain. Son thème, le sport et les loisirs. Au musée olympique de Lausanne, justement, il a notamment été question des constructions durant les Jeux olympiques. Le CIO souhaite en effet réaliser des édifices plus écologiques. Il a également été question de surf, de snowboard et de ski. Un laboratoire de Verbier s'est spécialisé dans le développement des technologies du bois inséré dans les spatules. Et là aussi, des innovations sont encore possibles. Explication avec Johan Chapelle, il est le directeur marketing et communication au First Track Lab.
Le noyau bois d'un ski, traditionnellement, c'est des lames de bois qui sont contrecollées dans la longueur, qui travaillent uniquement dans un sens. Aujourd'hui, nous, on essaye de combiner différentes essences de bois, des bois plus durs, plus fibreux, avec des bois plus légers, et puis également d'orienter les fibres. Donc on a même développé et posé des brevets sur certaines technologies avec des fibres qui sont orientées pour maximiser l'impact du bois dans le noyau sur la skiabilité. On a pas mal travaillé avec une marque qui s'appelle Anticonf, qui historiquement est très liée au lab. Et Anticonf, on a développé ce noyau. Il y a eu un prix de l'innovation aussi qui a été décerné pour ça, et c'est une technologie qu'on appelle le Next Core. Donc c'est vraiment de la fibre de bambou qui est orientée dans le ski, dans le noyau du ski, et qui nous permet d'avoir une meilleure skiabilité, une meilleure stabilité, tout en gardant un noyau qui est léger.
La journée de demain des rencontres romandes du bois sera ouverte au public, au programme notamment un championnat international d'escalade sur un mur en bois, un substitut à la cascade de glace, un sujet de Joël Espy. Le forum EPFL a eu lieu toute cette semaine au Swiss Tech Convention Center de Lausanne. Ce haut lieu du recrutement et de la rencontre professionnelle est le plus grand d'Europe dans sa catégorie. Il accueille chaque année plusieurs milliers de visiteurs et plus de 250 stands d'exposants. Pour les étudiants, c'est un moyen de faire connaissance avec un potentiel employeur et de participer à des workshops et des conférences. Les entreprises y trouvent également leur compte et ont une idée précise de ce qu'elles viennent chercher. Comme nous l'explique Pierre Chassagne, il est étudiant en cinquième année de robotique et chargé des relations avec les entreprises au sein du comité.
C'est vrai qu'elles viennent chercher surtout des ingénieurs, donc c'est des entreprises qui sont plutôt dans la tech, aussi des entreprises un peu plus typiques qui travaillent dans le ferroviaire, mais c'est vrai qu'elles viennent chercher principalement des ingénieurs dans tous les domaines que propose l'EPFL, donc ça va de la finance à l'ingénieur mécanicien de base, en passant par l'ingénieur électricien ou microtechnicien. Il y a aussi d'autres profils comme les sciences de la vie, les sciences de l'ingénierie, les génies civils. On a les architectes aussi, on a essayé de beaucoup développer le côté architecte avec les entreprises qui viennent le vendredi. Elles viennent en fait chercher les profils EPFL, les ingénieurs et autres scientifiques EPFL.
Pour participer à ce forum, il suffit de vous rendre avec votre certificat Covid au Swiss Tech Convention Center. Si vous ne possédez pas le document, un dépistage est possible à l'entrée. L'événement se termine ce soir avec le cocktail des entreprises à 17h30, un sujet de Guillaume Abbé. Une semaine après avoir annoncé son maintien, le salon de l'automobile de Genève est finalement annulé. C'est la troisième année consécutive qu'il n'aura pas lieu. Les organisateurs ont décidé de repousser le rendez-vous à 2023 à cause des difficultés du secteur automobile. Écoutez à ce propos Sandro Mesquita, le directeur général de la fondation du salon.
Aujourd'hui, le secteur automobile doit affronter des challenges qui sont particulièrement importants. Alors, il y a toujours la pandémie qui est en cours, mais il y a aussi les problématiques de livraison de composants électroniques qui retardent les livraisons de modèles aux clients finaux, mais qui retardent aussi le développement de nouveautés. Et comme vous le savez, on est aussi un salon de nouveautés, de nouvelles présentations. Et tout ceci rend le contexte extrêmement compliqué aussi pour les acteurs automobiles. C'est des impacts qui sont importants.
À noter encore que 60 exposants avaient décidé de ne pas se présenter au salon de 2022. La cause, le maintien des restrictions de voyage. Un sujet de nos confrères de OneFM. À l'étranger, les avortements au-delà de 6 semaines de grossesse ont repris hier au Texas, au lendemain d'une décision de justice ayant bloqué la loi qui les interdisait, même en cas d'inceste ou de viol. Les autorités de l'État ont cependant dit qu'elles allaient faire appel. En tennis, Belinda Bencic et Jill Teichmann affronteront respectivement Shelby Rogers et Irina Camelia Begu au deuxième tour du tournoi d'Indian Wells. Tête de série numéro 8 dans le désert californien, la Saint-Galloise reste sur un abandon en quart de finale à Chicago. De son côté, la Biennoise affiche pour sa part un bilan de 1 partout face à Irina Camelia Begu. Leur dernier face-à-face perdu par la gauchère zélandaise date de Roland-Garros 2020. Et puis enfin, en MotoGP, le calendrier provisoire pour le championnat du monde 2022 comprend 21 courses. Si la planification finale est confirmée, il s'agirait là d'un record. Jamais une saison n'a compté jusqu'ici plus de 19 Grands Prix. L'exercice devrait démarrer le 8 mars en nocturne au Qatar pour se terminer le 6 novembre à Valence.